Mes frères bien-aimés, le texte que nous venons de lire se situe en plein milieu du fameux discours sur la montagne que le Christ a prononcé peu de temps après le début de son ministère et dans lequel il y a notamment les béatitudes et le Notre Père. Et puis il y a aussi tous ces binômes dont nous avons eu quelques bribes aujourd'hui. Vous avez appris qu'il a été dit, eh bien moi je vous dis. Ces binômes à travers lesquels le Christ nous pousse à aller très loin dans l'amour à l'égard de tout homme, y compris de ceux qui nous répugnent. En fait, il dresse devant nous le portrait du cœur de Dieu son Père. Autrement dit, il nous indique ce qu'est l'amour dans son essence. Aussi, si nous suivons ses recommandations, c'est que notre vie se situe dans l'amour, et elle est donc réussie. Mais si nous ne les mettons pas en œuvre, c'est le signe que nous n'avons encore jamais aimé comme Dieu aime, alors que nous possédons pourtant depuis le baptême la vertu de charité, qui est justement la capacité d'aimer comme Dieu aime. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur la plus connue des exigences que le Christ nous ait données. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Ah, il y va fort, notre Seigneur. Alors bien sûr, il convient de préciser deux petites choses à ce sujet. Tout d'abord, aimer ses ennemis ne veut pas dire qu'il faille avoir avec eux la même relation qu'avec nos amis. On ne peut pas avoir confiance en un ennemi, on ne peut pas lui confier ses enfants ou ses biens. Et c'est Dieu qui nous le montre, lui qui ne fait pas confiance en Satan et ses suppôts, et qui ne leur confie ni ses enfants, ni ses biens. De plus, aimer ses ennemis ne veut pas dire qu'il faille s'aveugler sur le mal qu'ils commettent. On ne peut pas laisser impunément une personne semer la zizanie dans notre vie, dans notre famille ou dans notre société. Et là encore, c'est Dieu qui nous le montre, lui qui, après le péché originel, n'a pas laissé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour qu'ils ne l'abîment pas par leur péché. Voilà pour les deux précisions. Mais cela étant dit, il faut tout de même aimer ses ennemis. Autrement dit, premièrement, il faut leur vouloir du bien, ne pas les enfermer dans leurs actes mauvais, leur souhaiter un avenir radieux. Deuxièmement, il faut leur faire du bien, leur rendre des services, les soutenir quand ils en ont besoin. Et troisièmement, il faut les protéger du mal, préserver leur réputation et leur intégrité, ou encore empêcher les éventuelles vengeances. Alors, tout cela est bien vrai, mais peut-être un peu abstrait. Aussi, permettez que je fasse appel à un exemple concret et tout récent, puisqu'il date du 1er février dernier, pour que nous comprenions bien ce que veut dire « aimer ses ennemis ». Comme vous le savez sûrement, le cinéaste Roman Polanski a été condamné en 1977 pour avoir commis des actes odieux envers une petite fille de 13 ans. Il a alors purgé sa peine et a été libéré. Mais le juge a voulu le condamner à nouveau, trouvant finalement que la première peine était trop faible. Mais Roman Polanski s'est alors enfui des États-Unis. Depuis lors, ces mêmes États-Unis ont multiplié les demandes d'extradition vers la France, la Suisse et la Pologne, trois pays où réside le cinéaste, mais ces demandes sont restées sans effet. Et voilà que cette affaire est ressortie tout récemment, autour de la 45e cérémonie des Césars. Parce que le cinéaste y a été nominé 12 fois, ce que de nombreuses stars du cinéma trouvent inacceptable. C'est alors qu'un autre son de cloche s'est fait entendre, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de la victime de Polanski, la fameuse petite fille de 13 ans, Samantha Geimer. Elle a réagi à toute cette polémique à travers une longue interview accordée à un magazine australien Killett, interview dans laquelle elle tient des positions contraires à celles de toutes les stars, et donc fustigée par l'opinion publique, mais qui pour moi correspond parfaitement à ce que nous demande le Christ, du moins sous certains aspects. Concernant la polémique autour des Césars, elle est on ne peut plus claire. Ce serait bien si Roman pouvait obtenir un prix. Les films n'agressent pas sexuellement les gens, poursuit-elle, alors que la censure nous blesse tous. Nous devrions être reconnaissants pour tout ce que chacun offre de positif à la société, et non pas exiger des tests de pureté ou l'exil. Le ton est donné, mes frères, n'est-ce pas? Eh bien, ce n'est que le début. Vis-à-vis du crime que Roman Polanski a commis à son égard, elle dit simplement lui avoir tout pardonné. Elle va même jusqu'à affirmer « Il ne voulait pas me faire de mal. C'est le sentiment que j'avais et que j'ai encore. » Mais à l'époque, il ne comprenait pas que c'était complètement déplacé. Et elle conclut « Je ne veux pas me venger ou voir sa carrière détruite. » Contre toute attente, ce pardon lui a tout le temps été reproché. Et on lui a alors même soutenu qu'elle était atteinte du syndrome de Stockholm, ce phénomène psychologique dans lequel la victime finit par développer une certaine empathie à l'égard de son bourreau. Ce à quoi elle répond « Je ne souffre pas du syndrome de Stockholm. Je lui ai pardonné pour moi, pas pour lui. Tout le monde veut me voir traumatisé, brisé. Mais c'était il y a 40 ans. Maintenant, ça va. Merci. » Et tant pis si je ne suis pas la victime idéale, celle que veulent voir les médias ou le procureur. Je suis ce que je suis. Et c'est la manière avec laquelle j'ai été élevé. On ne m'a pas appris à avoir peur et honte, ni à courber l'échine. On ne m'a pas non plus appris que le sexe était nuisible, ou qu'il pouvait m'enlever quelque chose. Je savais que des choses bien pires arrivent tout le temps aux gens. Par contre, on m'a appris à être forte et confiante, à être une rescapée, et à savoir que ceux qui veulent me faire du mal sont en réalité les plus faibles. Des trucs moches, ça arrive dans la vie. Eh bien, nous devons les surmonter, pas nous rouler en boule et attendre la mort. Aujourd'hui, poursuit-elle, on dit qu'un tel discours jette le blâme sur les victimes. Moi, j'appelle ça un bon conseil et un objectif à atteindre, même si au début, vous vous en croyez incapable. Dans sa chanson « Réfugié », Tom Petty chante « Quelqu'un, quelque part, a dû forcément t'en faire voir. Mais dis-moi, pourquoi tu veux t'avouer vaincu et savourer ton désespoir ?» Ce sont là des paroles de sagesse. Mes frères, à travers ces paroles de Samantha Geimer, ces paroles que je ne me serais jamais permis de prononcer si une victime ne l'avait pas fait elle-même, je ne veux fustiger personne. Si nous avons vécu un drame dans notre vie et que depuis lors nous sommes brisés, personne ne pourra nous en blâmer. Mais j'ai voulu faire résonner ces propos dans cette église, tout simplement parce que je les trouve remplis de force et d'espoir, et qu'ils peuvent nous aider à vivre ce que nous demande le Christ. Un autre aspect que je voudrais relever dans le témoignage de Samantha Geimer, c'est à quel point elle a souffert à cause de tout ce qu'il y a eu autour de ce procès, notamment le plaisir avec lequel les juges, les journalistes et les téléspectateurs se sont délectés des détails de son agression, et surtout la haine qu'elle a subie quand elle a pardonné publiquement. Certains de ses détracteurs ont alors estimé qu'elle n'avait pas le droit de pardonner. Ce à quoi elle répond « Mais le pardon est une force qui aide la victime. Il vous libère de la haine et de la rancune. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force. » Évidemment, cela n'a pas suffi pour faire taire ses adversaires qui ont alors utilisé tous les moyens en leur possession pour la déstabiliser et pour lui faire dire ce qu'elle ne voulait pas dire. À tel point qu'elle a affirmé récemment « Si je devais choisir entre le viol et revivre ce qui s'est passé après, je choisirais le viol. Ma mésaventure avec Roman ne m'a pas traumatisé, ni mentalement, ni physiquement. Le procès, oui. » Et de poursuivre, « À chaque fois que Roman ou moi avons essayé de mettre cette histoire derrière nous, on nous en a empêchés. Je me disais qu'on n'allait jamais réussir à avoir la paix, même temporairement. Finalement, notre lutte pour obtenir justice a fait de nous des alliés depuis bien plus longtemps que nous n'avons été des adversaires. Mes frères, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais j'ai tremblé en lisant ces paroles. Aussi, retenons deux points de cet exemple éloquent. Premièrement, qu'aimer nos ennemis en leur pardonnant est un conseil libérateur que nous donne le Christ. Certes, il y a là quelque chose de surhumain, mais c'est pour notre bien. Si nous voulons dépasser tous les drames que nous avons connus, si nous voulons garder le sourire malgré les inévitables atrocités que nous allons connaître, il n'y a que le pardon comme solution. Ressasser le mal que nous avons subi de la part des autres ne fait que bloquer notre vie et la leur dans ce mal, ce qui est la pire des choses. Deuxièmement, retenons qu'en ne pardonnant pas, ou en ne cessant pas de parler du mal qui a pu être commis, nous faisons en fait parfois plus de mal qu'on nous en a fait ou qui a été fait. Allez mes frères, tuons le mal par le pardon. Attention, ce que je dis ne vaut pas pour des actes fréquemment répétés. Par exemple, si votre mari vous frappe tous les jours, il ne suffit pas de pardonner, il faut aussi vous protéger. Mais ce que je dis vaut pour des actes circonstanciés. Ainsi, si notre frère a eu 10 000 euros de plus à l'héritage, on lui pardonne et on passe à autre chose. Si un camarade nous fait un croche-patte dans la cour de récré et qu'on se casse une dent, on lui pardonne et on passe à autre chose. Ne nous figeons pas à l'état de victime et ne figeons pas les autres à l'état d'agresseur. Mais pardonnons pour permettre à eux et à nous de devenir des êtres de lumière. Amen.